Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Je réfute totalement cette
Bonjour et bienvenue à l'équipe de Parole aux auditeurs. Nous allons passer ensemble près de 60 minutes d'échange et de discussion sur un sujet que vous vivez au quotidien aujourd'hui jeudi. Nous avons choisi pour vous un sujet économique avec la hausse sur le marché, bien sûr, des prix de première nécessité et même d'autres produits alimentaires. À qui ça sert par exemple, certaines denrées alimentaires et produits manufacturés de première nécessité connaissent une augmentation qui varie entre 300 et 500 francs congolais. Quelle est la situation dans votre milieu? À votre avis, que faut-il faire pour la stabilité des prix? Voilà les deux questions qui vont lancer cette émission, sans oublier que Sinterativi sera la musique, la supervision de Nicole Ndaka est à la réalisation de cette émission. Marie-Fontaine Lumba est à la présentation et Dieudonné Ndaka à la mise en œuvre.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à pa@radiotapi.net.
Cela fait près de deux semaines, même plus de deux semaines que les prix ont augmenté. Ce ne sont pas des fortes variations entre 300 francs et 500 francs, notamment ici à Kinshasa. Nous voudrions savoir comment ça se passe chez vous. Quelle est la situation chez vous par rapport au prix sur le marché? Nous avons déjà Sylvain qui est au bout du fil à partir de Kananga. Bonjour Sylvain.
Bonjour les auditeurs de Radio Kati.
Dites-nous à Kananga, est-ce que les prix ont augmenté?
Bon, c'est pas la première fois, ça fait déjà l'habitude au Congo. Et les Congolais sont déjà habitués à ce genre de pratiques. Ce n'est pas la première fois.
On est au courant de ces deux semaines que vous avez constaté cette augmentation. C'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais à un certain moment, il y avait une stabilité des prix.
Bon, ça, c'est vrai, il y a toujours une augmentation de prix sur tous les denrées alimentaires. Chez nous, par exemple, le maïs qui ne cesse de varier. Il y a longtemps que le métal du maïs s'est négocié à 450. Présentement, nous avoisinons les 600 francs. Vous voyez que donc, il y a toujours, les prix sont toujours ballottants.
Donc, une valse des prix. Et dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour pouvoir stabiliser les prix, qu'on puisse avoir peut-être 500 francs? Il y a eu un moment où, comme vous l'avez même dit, que le métal était resté pendant un moment à 500 francs. Donc, ça fait même un mois, si je pense bien.
Bon, moi, ce que je déplore, en tout cas, c'est la manière que notre pays ici est gouverné. On dirait que il y a les ministères, par exemple, qui sont des noms seulement, des étiquettes. Nous avons tout un ministère de pêche, élevage et agriculture. Mais si nous voyons réellement ce qu'ils sont, je ne sais pas, aucune politique qui est mise en place pour que l'agriculture, l'élevage, la pêche, tout ça, les gens et les denrées alimentaires d'une façon un peu forte. Vous savez, le problème de prix, c'est lié à l'offre et à la demande. Dès que la demande devient plus importante que l'offre, automatiquement les prix doivent monter. Mais qu'est-ce qui est fait dans notre pays pour ne juste pêcher même nos poissons locaux? Nous avons quand même des rivières, on ne pêche jamais. Nous avons de facilités d'élever. Il n'y a aucune politique d'élevage. C'est tout à fait normal, tout est importé. Bon, quand il y a rareté de marché, les prix doivent nécessairement monter.
Donc, à votre avis, il faudrait encourager la production interne parce que le prix est lié à la loi de l'offre et de la demande. Merci Sylvain de Kananga pour votre intervention. Bonjour Joël de Denis.
Oui, bonjour, c'est Joël Dikin.
Bonjour, Joël Dikin, est-ce qu'à Bénin vous avez constaté une hausse des prix?
Oui, effectivement, nous avons constaté une hausse des prix sur les marchés. Surtout que j'ai remarqué que dans les mois passés, les trois mois passés, le sac de riz au marché de Bénin coûtait à $50. Mais aujourd'hui, c'est élevé à $65-$70. C'est ça comme preuve que j'ai, mais je voulais aussi dire que l'augmentation des prix sur le marché peut être due à plusieurs phénomènes.
Mm-hmm.
D'abord, premièrement, il peut être dû à deux situations. Une situation qui est convergente et l'autre qui est une situation divergente. Cela veut dire qu'une situation divergente, il y a des moments où sur le marché, par exemple, l'offre excède la demande. Et à ce moment-là, maintenant, il y a peu d'acheteurs et beaucoup de vendeurs avec des produits, mais qui manquent, qui vont déboucher leurs produits.
Mm-hmm.
Et deuxième situation convergente, il peut y avoir que sur le marché se pose un problème de la demande excède aussi l'offre. Et qu'il y a beaucoup des acheteurs, mais avec peu de produits sur le marché. Alors, ça demande que l'État puisse intervenir sur le marché pour chercher à régulariser avec des subventions et des subsides sur le marché. Et la deuxième situation peut être aussi due à la circulation de nos frontières, donc des douanes. Notre pays dépend plus de l'extérieur. Nous vivons des importations. Et quand il y a plus de circulation sur les frontières, les gens ne savent plus comment importer. Au moment où chez nous, on ne produit rien. L'État devait faire un effort de chercher quand même à diminuer les prix des douanements pour que les producteurs ou donc les commerçants qui importent les produits puissent quand même amener des produits sur le pays qui vont vendre à un prix qui va aussi faciliter la population de trouver quand même les moyens de survie. Chez nous, on ne paye pas les gens. On n'a pas les salaires suffisants. Et on surtaxe le produit venant de l'extérieur. Et les vendeurs, quand ils viendront ici pour mettre étaler les produits sur le marché, ils vont chercher une marge de bénéficiaire.
Vous avez fait allusion à l'intervention de l'État par des subventions et des subsides. Dites-moi un peu par quel procédé est-ce que l'État va pouvoir donner des fonds aux opérateurs économiques? Comment pensez-vous que peut intervenir l'État plutôt par des subventions et des subsides?
Oui, l'État peut intervenir sur le marché par des subventions dans le sens que, par exemple, je vais aller par un exemple. Il arrive qu'un commerçant, il amène des produits qu'il veut faire entrer ici dans notre frontière de Cassine. Au lieu de payer, par exemple, $2,000, ce vendeur ou le commerçant, il viendra fixer le prix de son produit ici, par exemple, à $4,000. L'État peut négocier, dire à la vendeur, au vendeur que, voilà, nous diminuons le prix de votre produit. Au lieu de 2000, vous payez 1500. À condition que sur le marché, vous puissiez fixer le prix de votre produit. Au lieu de $40,000, au lieu de $4,000, vous puissiez fixer ça à 3000.
Mmh.
C'est ça ce qu'on appelle des subventions.
Oui, par exemple, lorsqu'il y avait une carence de ciment dans le pays, il y a eu des opérateurs économiques qui ont quand même vu de ces avantages-là. Mais par rapport au subside, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer?
Bon, par rapport au subside maintenant, là, l'État maintenant, lui, il va payer maintenant, il va financer maintenant les entreprises. Il va financer maintenant les entreprises. Une entreprise qui se situe au Congo, il a des problèmes de fonctionnement, de production. Quand il a des problèmes de production, il produit à un coût très élevé. Il va fixer aussi sur le marché un prix là qui sera vraiment très élevé. Alors, l'État va négocier maintenant l'entreprise en disant que, voilà, nous, au lieu que vous puissiez payer des taxes autant, voilà, on te demande de diminuer les prix plus le marché, même si vous produisez à un coût très élevé, produisez, mais c'est que le prix qui sera moyen, qui va permettre que la population puisse consommer, et nous, on va diminuer les taxes que vous devez payer.
Merci beaucoup, Joël, pour toutes ces définitions aussi, l'explication des termes assez techniques. Nous vous remercions pour vos propositions. Bonjour, Augustin.
Bonjour, madame.
Oui, vous êtes à Kimbo, on vous écoute.
Et merci, madame. En ce qui concerne les prix qui varient de jour à jour, moi, je pense que c'est la manque d'une bonne politique de notre pays. Le ministère des Finances et de l'Économie, surtout de l'Économie, ne sait pas mettre les choses au clair. Et je me venais d'observer ici au Sénat, par exemple, les prix des denrées alimentaires, entre autres le riz par exemple. Nous avions passé au moins 5 mois ou 6 mois, le prix était vraiment stable. Mais on ne comprend pas, nous sommes presque vers la fin de la moisson du riz, le prix vient d'avarier, maintenant un gobelet de riz revient à 200 francs. Même si notre produit, par exemple le ciment, la province importe le ciment dans d'autres provinces voisines ou dans les pays étrangers comme Tanzanie, mais le prix n'a jamais été stable. Parfois c'est $50 le sac, parfois c'est $40. Alors on ne sait pas comment on peut stabiliser ces prix là-bas, si et seulement si on n'a pas une bonne politique dans les douanes, dans nos douanes là-bas, avec les pays frontaliers de notre pays. Donc je pense que notre ministère de l'économie peut nous aider en fixant certaines préalables pour que nous puissions avoir des prix stables. Par exemple, au niveau de la province, s'il vous plaît, qu'est-ce que la mairie est en train de faire ici? Qu'est-ce que la division provinciale de l'économie a de faire? Il y a aussi un ministère provincial de l'économie. Mais on ne sait pas vulgariser les prix ou mettre quand même le prix stable. Tout ça, c'est le manque de communication entre le gouvernement provincial et le gouvernement central. Et surtout que le gouvernement central ne sait pas aussi envisager d'autres voies, d'autres perspectives avec les pays étrangers.
Mettre
stable sur le plan des prix, madame.
Souhaiter en fait que le ministère puisse fixer les prix.
Bon, le ministère peut fixer, le ministère peut proposer les prix. Et lorsqu'on observe la proposition des prix, on peut quand même rester on peut avoir quand même une stabilité des prix comme dans d'autres pays, madame. Je suis par exemple content quand je suis à Kinshasa, je vois que les pains coûtent la même chose, le même prix qu'on a à Kinshasa, dans la commune de Maluku, au plateau de Batessia, c'est le même prix du pain. Et pourquoi pas aussi ne pas faire la même chose ici à Kindu, par exemple, un gobelet du riz doit avoir le même prix ici aux endroits un peu environnants. De la ville.
Je ne pense pas que c'est une politique de l'entreprise elle-même qui produit le pain.
Bon, je dirais que si il s'agit de la politique de l'entreprise, mais rien n'empêche aussi que le gouvernement a toujours la même idée sur tout ce qui doit se passer dans les pays, madame. Mm-hmm. Il n'y a aucune personne qui décide de la loi. La loi doit être vulgarisée et on doit respecter la loi. Merci. Que ce soit, elle est dure, mais la loi reste la loi, madame.
Merci, Augustin et de Kindou, pour votre intervention.
Parole aux auditeurs.
Et nous avons tout seul au bout du film Monsieur Lems Kamoania. Il est analyste économique, c'est un expert en économie. Ce sera notre premier invité pour notre émission. Bonjour Monsieur Kamoania.
Bonjour.
J'espère que vous avez suivi nos auditeurs. Il y a eu des propositions assez consistantes. Ils ont constaté qu'effectivement, à une certaine période, il y avait une stabilité de prix, mais curieusement, ces derniers jours, les prix ont augmenté. C'est vrai que, par exemple, pour notre auditeur de Béni, il a donné l'exemple pour le sac de riz qui est passé de $50 à 65, voire même 70. Là, c'est une hausse assez grande hein, de prix, mais aussi, il y a eu des petites hausses, comme à Kinshasa, où sur certains produits, 300 francs de plus, 500 francs de plus, c'est vrai que c'est pas aussi insignifiant que ça, parce qu'une femme qui va au marché, une ménagère, qui d'un coup, elle trouve une augmentation de prix de 300 francs, 500 francs, ça dérègle un peu tout son programme. Mais vous êtes économiste, dites-nous un peu cette variation de prix, et souvent, quels sont les facteurs qui poussent à ce que le prix puisse varier?
Oui, généralement, si nous voyons la hausse des prix qu'on observe pratiquement sur l'étendue de toute la République du pays, cette hausse peut être expliquée par deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est généralement la forte pression du niveau de consommation. On se rend compte que de plus en plus, il y a des populations qui cherchent à acquérir des biens et des services. Et on est vité à un problème de l'adéquation entre la quantité offerte sur le marché par rapport au niveau de la demande. Ce qui fait que s'il y a beaucoup de gens qui veulent plus acheter par rapport à la quantité disponible, cela peut entraîner généralement une hausse de prix. Et c'est le mécanisme traditionnel que les gens appellent loi de l'offre et de la demande. Bon, nous, on appelle ça en économie comme étant la confrontation entre les quantités désirées par les consommateurs et les quantités rendues disponibles par les vendeurs. Ça, cela peut entraîner la hausse des prix. Mais pour le cas de notre pays, ces facteurs interviennent pour peu dans la variation du prix, et je crois que la variation ne peut pas dépasser 10%. Mais le facteur le plus important qui a toujours expliqué la hausse des prix dans notre pays, c'est généralement la dépréciation du franc congolais par rapport aux devises, et principalement les dollars américains. Vous connaissez que la plupart des biens que nous consommons, ce sont des biens qui sont importés, qui ne sont pas produits localement. Or, pour les importer, on n'arrive pas, on ne peut pas les faire avec des francs congolais, il faut avoir les devises, notamment les dollars. À ce moment-là, s'il y a dépréciation du taux d'échange, ou si les francs congolais perdent sa valeur par rapport au dollar, cela entraîne une augmentation en francs congolais des prix parce que cette variation est répercutée dans les prix de vente. Et ça, ça a toujours été le facteur qui justifie le plus la variation du prix des biens sur les marchés. Et ensuite, vous devez comprendre aussi qu'il y a une liaison entre les produits ou bien les biens qui sont importés par rapport aux produits ou biens qui sont produits localement dans les pays. Qu'est-ce qui arrive? Ceux qui produisent les biens localement dans les pays, lorsqu'ils constatent que les produits de première nécessité ou les produits importés augmentent les prix, et aussi essayent de faire varier les prix des biens qui sont produits localement et qui ne sont pas importés, pour arriver à maintenir leur pouvoir d'achat. C'est ainsi que la hausse des prix des produits qui sont importés se répercute aussi sur la hausse des prix des produits ou bien des biens qui sont produits localement par le fait que leurs vendeurs cherchent à garder intact leur niveau de pouvoir d'achat. Donc voilà un peu ce qui explique le plus souvent la hausse des prix sur les marchés de biens et consommation.
Revenons à la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. C'est à peine une semaine qu'il y a eu une petite variation. Donc le franc, à l'époque, c'était un franc congolais, plutôt un dollar pour 900 francs congolais. Et c'est à peine, je crois même une semaine et presque et demie, qu'on est passé de 1 dollar à 910 francs congolais. Mais déjà, on avait déjà constaté une hausse des prix. Est-ce que vous pensez que c'est aussi lié, comme vous l'avez expliqué pour le troisième cas, à une forte importation? Et pourtant...
Non, je pense... vous dites une semaine, mais moi, je constate que ça fait maintenant 3 semaines, presque un mois, que les francs congolais s'est déprécié. Et aussi, il faut savoir que les vendeurs... ils appliquent ce qu'on appelle le mécanisme d'anticipation. Lorsqu'ils constatent que la monnaie commence à se déprécier, s'ils sentent vraiment que les francs commencent à se déprécier par rapport au dollar, ils projettent encore une dépréciation future. Ils se disent il ne faut pas qu'on vende à un taux qui est faible aujourd'hui, mais le jour où on sera obligé peut-être d'importer dans un mois ou dans 30 jours, les francs congolais que nous aurons ne nous permettront pas d'avoir une quantité équivalente en dollars. Alors ils essaient d'anticiper. Et généralement, la hausse des prix est toujours plus que proportionnelle par rapport à la variation à la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. Par exemple, si le franc se déprécie à une classe de 10%, vous allez voir que les vendeurs vont anticiper une hausse des prix jusqu'à hauteur de 20% parce qu'ils veulent se prémunir contre une pression future et ne pas se retrouver avec moins de devises et perdre par le fait même leurs bénéfices. Donc, c'est vraiment le mécanisme de spéculation et d'anticipation qui guide les vendeurs.
Et à votre avis, quel est le rôle de l'État à ce moment-là? Parce qu'il y a des auditeurs qui pensent qu'il faudrait nécessairement que l'État puisse intervenir. On peut dire que la RDC évolue dans une économie presque libérale, un système où
les agents économiques... Oui, l'économie libérale, cela n'explique pas l'intervention de l'État. Oui. L'État reste toujours le régulateur de l'économie. Et généralement, qu'est-ce que l'État peut faire? C'est par exemple mettre à disposition des opérateurs économiques qui importent les devises par le biais du système bancaire. Et ça, c'est le rôle de la Banque centrale. Parce que la Banque centrale a comme rôle de protéger la valeur de sa monnaie nationale. Quand elle constate qu'il y a sur les marchés tendance à ce que la monnaie nationale est sans congolais puisse se déprécier par rapport aux devises étrangères. Elle doit mettre à disposition de ceux-là qui ont besoin de dollars ou de devises, les devises équivalentes à un taux qui est plus faible et éviter que ces gens aillent chercher ces devises sur les marchés parallèles où ils peuvent l'obtenir à n'importe quel prix. Ça, c'est un premier mécanisme d'intervention qui peut être effectué par l'État à travers la Banque centrale. Donc, on essaie de stabiliser les taux d'échange et on essaie de rendre disponibles les devises au niveau des opérateurs économiques qu'ils doivent importer pour éviter qu'ils aillent faire la pression sur les marchés parallèles. Ça, c'est un mécanisme qui est assez simple. Un autre mécanisme qui est là, c'est, je crois, il y a certains auditeurs qui ont annoncé ça, nous devons faire en sorte qu'on puisse augmenter le niveau de la production intérieure. Pas seulement la production des produits primaires, mais arriver à mettre en place des industries pour la première et la deuxième transformation, de façon à réduire les importations des biens. Parce que nous importons n'importe quoi, même les œufs, nous importons, même les poulets, on importe. Et pourtant, ce sont des choses que nous pouvons fabriquer localement. Et si nous les produisons localement, cela va faire que nous allons sensiblement diminuer nos importations, et la diminution des importations va réduire aussi notre dépendance vis-à-vis des devises et atténuer un peu la pression qu'il y a sur les marchés d'échange. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'État d'avoir une politique, une politique d'industrialisation, de créer des anticipations pour encourager, par exemple, ceux-là qui peuvent implanter des industries de première et seconde transformation, faire en sorte que la plupart des produits bruts que nous avons puissent passer par une transformation et qu'on réduise un peu notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des importations et vis-à-vis de la dépendance de ces dollars. Là, ce sont des mécanismes qui relèvent de la politique économique que l'État peut mettre en place au point de vue économique. Et de la même manière, l'État peut aussi encourager les producteurs qui vendent sur les marchés extérieurs. Parce que ceux qui vendent sur les marchés extérieurs, ils ont l'avantage de ramener les devises au pays. À ce moment-là, lorsque nous ramenons les devises au pays par les biais des exportations, ces devises peuvent nous permettre de compenser les devises que nous devons utiliser pour arriver à importer. Mm-hmm. C'est pourquoi la production, vraiment, elle a un double rôle. Elle nous permet, d'une part, de diminuer la pression sur les marchés d'échange, en diminuant les importations, et d'autre part, elle nous permet de ramener des devises au pays par les mécanismes des exportations. Merci. Et que les devises arrivent à équilibrer les marchés d'échange.
Monsieur James Kamanya, plutôt, nous vous gardons en ligne, le temps d'écouter encore Gauthier de Kinshasa, Géry de Bandundouville.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Gauthier. Oui, Gauthier, comme nous sommes tous à Kinshasa, nous avons constaté cette hausse de prix. Donc, c'est pas nécessaire qu'on vous pose la question pour savoir quelle est la situation.
Ah, c'est pas pour m'aider du matin.
Mais si vous faites Gauthier,
Je vous suis,
c'est pas moi qui parle. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de la personne qui parle de l'autre côté? C'est vrai que c'est vivant, mais quand même qu'on puisse bien vous suivre. Alors Gauthier, à votre avis, que faudrait-il pour que les prix soient stables?
Oui, pour que le prix soit stable, moi je pense que il faut d'abord promouvoir la production locale, comme vient de le dire notre invité. Mm-hmm. Mais aussi, il faut réduire le frais de douane. Parce que lorsqu'un commerçant arrive avec ses biens qu'il importe, à la douane, lorsqu'on les facture, c'est proportionnellement à cette facture-là qu'il va aussi vendre pour bénéficier. Donc, si l'État veut acheter, sa population achète des biens à un bas prix, il doit tenir compte aussi de sa tarification à la douane. Parce que le commerçant ne peut pas accepter de perdre. Lui, ce qu'il doit faire, c'est gagner. Alors l'État doit revoir les prix à la douane pour permettre à la population d'acheter à un bas prix. Aussi, je voulais ajouter ceci. Notre invité parle de la régulation de l'État pour le prix dans les marchés économiques. Mais moi, je veux dire ceci. Lorsque les vendeurs augmentent les prix de manière disproportionnée par rapport à la dépréciation du franc congolais, qu'est-ce que l'État? Apparemment, il ne fait rien. Si notre invité peut nous répondre à cette question-là.
Merci beaucoup. Vous avez notre préoccupation, une proposition?
Non, ça va, ça va.
Oui, mais Gauthier, quand même, vous savez bien que l'État vit en grande partie des taxes, impôts et redevances. Et si maintenant l'État doit réduire les frais, par exemple, de douane, est-ce que vous pensez que cela peut permettre d'équilibrer le budget?
Pour ne plus que les denrées alimentaires, l'État peut réduire et ça ne coûtera rien. Il y a beaucoup d'autres produits où l'État peut tirer des dividendes par la douane. Mais pour les denrées alimentaires, je pense que l'État peut réduire les frais pour justement permettre à la population d'acheter à un bas prix et à un prix raisonnable. C'est pour ça que je vais passer, c'est un facteur très important sur les prix au marché. Vous voyez quand les prix augmentent, l'État n'arrive pas à réguler ça. L'État n'arrive pas à faire réduire les prix. C'est parce que il comprend que ces commerçants qui arrivent avec des produits importés ne sont pas à mesure de vendre pour gagner. Donc, ils ne peuvent qu'augmenter les prix. Et ce monsieur du ministère de l'économie, il peut nous aider à amener ce message vers l'autorité. Ils doivent commencer à réagir dès qu'il y a une moindre augmentation de prix sur le marché.
Oui, Gauthier, l'invité que nous avons aujourd'hui, c'est un expert économiste. Nous n'avons pas pu avoir quelqu'un du ministère de l'économie. Peut-être prochainement, quand nous allons organiser cette émission de ce genre, nous allons faire un effort vraiment pour pouvoir avoir quelqu'un du ministère de l'économie. Merci beaucoup, Gauthier, à partir d'ici de Kinshasa, pour votre intervention. Bonjour, Gérie de Bandundouville.
Bonjour, madame.
Géry, on vous écoute. À Bandundouville, il y a eu une augmentation des prix.
Bon, je vous salue d'abord pour l'initiative de Paré Émission. Oui, madame, ici à Bandundu, bon, comme au Congo, il y a augmentation des prix partout, mais à Bandundu aussi, il y aura l'augmentation.
Est-ce que vous êtes allé sur le marché, vous avez constaté cela?
Oui, vous imaginez. Comme ici à Bandundu, notre poisson-là qu'on appelle l'entiori, ou bien le Saint-Charles, un carton qui se vendait à 17 000 francs. Mais aujourd'hui, si vous partez dans les endroits où on vend ces cartons, donc un carton est réglé à 29 000 francs congolais. Donc c'est une hausse de prix déjà, madame.
Et dites-nous, vous avez constaté cette hausse de prix. À votre avis, que faudrait-il pour stabiliser ces prix?
Bon, moi, je ne sais pas. Pour moi, je constate, est-ce que l'augmentation des prix, ça provient aux saisons sèches ou bien aux saisons de pluie? Quand nous étions à la saison sèche, bon, il n'y avait pas l'augmentation des prix. Maintenant, nous entamons la saison des fruits. Tous les denrées alimentaires ont pris des cancers. Donc, les tarifs vraiment sont très élevés. Je ne sais pas, ici, tellement avant nous. Donc, nous avons les gens qu'on appelle les vendeurs. Donc, on l'appelle les revendeurs. Donc, ils viennent, puis ils partent. Par exemple, au village, on nous vend un bas d'arachide, même à 70 ou bien 7 000, pour une chèque à 7 000, ils viennent revendre cela ici avant de nous voir, même 18 000, 20 000 francs congolais. Je ne sais pas, moi je proposerais que le ministère de l'Affaires économiques fait un état des lieux ou bien met l'air déjà à service pour contrôler les prix des denrées alimentaires dans les marchés.
Et vous posez des questions pour savoir si cette augmentation des prix est liée à la saison sèche ou à la saison de pluie. Donc vraiment, vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe réellement face à cette vaste des prix. Merci Géry de Bandundouville, nous avons un expert avec nous, il pourra vous donner des précisions pour savoir comment ça fonctionne. Déjà au début, il avait essayé d'expliquer la loi de l'offre et de la demande, une forte importation par rapport aux exportations, aussi le fait qu'il n'y ait pas une assez forte production interne, et aussi sans oublier la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Merci Géry de Bandundouville pour votre intervention. Nous avons JP, il s'appelle JP, il nous appelle à partir de Kananga, il est opérateur économique. Bonjour JP.
Bonjour madame. Nous, à partir de Kananga.
Nous avons appris à Kananga. Vous avez aussi connu notre déprime. Vous êtes opérateur économique. Souvent, on pense que vous spéculez sur les prix. Donc, c'est souvent les opérateurs économiques qui augmentent les prix, bien sûr, selon ce qu'ils sont en train de vivre sur terrain. Qu'est-ce que vous pouvez répondre face à toutes ces accusations?
Merci pour la question et comme vous avez un expert à côté, je crois que ça va bien évoluer.
Ici, à Canada, dans ma ville, présentement, je suis d'ailleurs dans mon magasin. Je vous dis que, Marie, nous faisons face à des taxes énormes. Je vous dis que je suis un importateur. Je vais vous montrer combien nous avons de difficultés, ce qui nous amène à cette hausse de prix. Moi, j'importe la marchandise à la même date avec un monsieur de Lubumbashi, un monsieur de Kinshasa. Ce monsieur va faire 3 courses, soit en Chine, soit à Dubaï. Mais moi, je vais réaliser 1 course sur 3. Ça veut dire, pour réceptionner ma marchandise à Kananga, ça prend 7-8 mois. Maintenant, quand j'amène cette marchandise, j'arrive à la douane. Vous trouvez que l'année passée, vous aviez dédouané à X montant. Vous amenez la marchandise, vous trouvez une note exagérée. Donc, c'est là, quand vous amenez la marchandise, il y a déjà subi des conséquences sur la SNCC qui nous trahit toujours. Et si vous amenez, vous arrivez des taxes, quand vous vous mettez à décharger les wagons en gare, plus de 30 services, autant de taxes, de cité, c'est là, la DGE consort. Comment voulez-vous, madame, qu'on ne puisse pas augmenter les prix pour avoir un gain de cause? Je crois que c'est une mauvaise politique, et puis, particulièrement parce que je parle de ma ville, nous sommes au centre, nous faisons face à des difficultés liées au transport, la SNCC, bon, ce n'est pas un secret pour personne, qui nous trahit la marchandise. De Lubumbashi jusqu'ici, ça peut même prendre 4, 5, 6 mois. Alors, vous amenez cette marchandise, devant vous, vous avez autant de services de l'État qui naissent du jour au lendemain, des taxes augmentées, cela nous amène à ces conséquences. Et pour preuve, je vais vous dire que ces secteurs-là, s'ils font des taxes, c'est parce qu'ils sont prêts pour majorer des taxes chaque année, chaque mois, mais s'ils pouvaient aussi être en mesure de faire les statistiques, savoir que la santé de nos opérateurs économiques, comment elle évolue. Parce que je vous dis, si vous faites l'inventaire aujourd'hui, il y a des baobas, des grands opérateurs économiques de ma ville qui se sont découragés, ils n'importent plus. C'est-à-dire que cette rareté aussi peut jouer sur l'augmentation des prix. Ils se sont découragés. Si l'expert pouvait être en mesure qu'on lui dise l'année, il y a par exemple 3 ou 4 ans, combien d'opérateurs économiques exerçaient ou bien faisaient l'importation, vous verrez que le nombre est vraiment diminué.
Et à votre avis, c'est vrai que vous cherchez à pouvoir faire des bénéfices au maximum, mais qu'est-ce qu'il faudrait quand même pour qu'il y ait une stabilité des prix?
D'accord. Pour qu'il y ait stabilité, d'abord, il faut que l'État raisonne bien sur les taxes et supprime. Nous savons que l'État subsiste grâce aux taxes de consommation, mais qu'il n'y ait pas d'exagération. Quand il n'y a pas d'exagération sur les taxes, et si l'État peut nous aider à bien s'occuper de la SNCC et d'autres moyens de transport, je crois que nous ne pouvons pas avoir un esprit là d'égoïsme pour
augmenter. C'est quand même rare de voir des opérateurs économiques qui ne veulent pas faire des bénéfices au maximum parce que vous voulez toujours avoir le plus gros lot. Et des fois, vous achetez quelque chose à peut-être 100 francs et vous le revendez à 300 francs.
Oui, madame. C'est ça.
Donc, il y a aussi des opérateurs économiques qui favorisent cette base de prix.
Oui, c'est ça que je vous dis. Parce que, imaginez-vous, la marchandise qui vous fait 8 mois en cours de route, vous venez, vous n'avez même pas encore vendu, vous devez payer la douane, vous devez payer autant de taxes. Maintenant, il y a des loyers aussi que vous payez, des personnels, tout ça.
Et tout ça retombe sur la population. Merci beaucoup, JP, vous êtes opérateur économique de Kananga. C'est votre témoignage, mais aussi une proposition pour pouvoir stabiliser les prix. Nous allons prendre Madame Ludivine de Kinshasa, la première dame, mais c'est quand même un peu embêtant. Aujourd'hui, nous parlons de hausse des prix et c'est souvent les mamans qui vont au marché. Nous voudrions bien que les mamans puissent intervenir. Les dames, intervenez. C'est le 081-890-6315, le 081-890-6315. Ou bien si vous avez le temps, vous avez Internet à la maison, si vous voulez faire un SMS, vous pouvez le faire. Mais si vous avez le temps de passer dans un cybercafé, c'est de nous envoyer un SMS à l'adresse Internet. www.radiotapis.net. Madame Lourdine, on vous écoute. Vous êtes ici à Kinshasa.
Oui, donc, écoutez, c'est une situation qui nous réalise aujourd'hui. C'est un peu pour la femme ménagère. Et je suis dans l'embarras. Aujourd'hui, nous nous trouvons, c'est moi, mais tout en tout cas, pour faire une petite provision pour la maison. Étant donné que je suis fin de l'ascenseur au jour le jour, ça pour vous donner en tout cas en garde alimentaire, c'est bien un casse-tête pour le commun de Marseille, je veux dire. Et le peu d'argent que vous avez choisi peut-être pour la provision de une semaine, il faut le multiplier par deux ou trois. Tout est réduit à la hausse au marché. On peut vous donner de la tête. Et même certains vivres et ingrédients qu'on achetait à un litre, aujourd'hui, ça coûte excessivement cher. Selon les cas, par exemple, du chinchard, du poisson salé, des tripes, le sac de riz, un sachet de chips, pendant la liste n'est pas exhaustive. Donc, vraiment, c'est difficile, en tout cas, pour nous, que c'est les femmes ménagères. C'est les autorités compétentes qui puissent, en tout cas, avoir cette situation.
Mais cela même peut vous causer des maux de tête, parce qu'à ce moment-là, il est difficile pour vous de pouvoir organiser son foyer, surtout sur le plan alimentaire.
C'est ça, aussi, pour tout ça. Par exemple, nous qui avons de baiser, je peux dire. Quand vous avez, par exemple, vous avez prévu d'acheter, par exemple, deux boîtes de lait pour l'enfant. Et vous arrivez sur le marché, vous trouvez que le prix, la boîte de lait a augmenté. Ce n'est plus le prix que vous allez laisser, par exemple, avant deux jours. Et quand vous avez acheté deux jours, ça, c'est plus que ça. Alors, là, vous êtes obligé d'acheter aussi sur une boîte de lait. Et c'est quand même pour deux jours avant d'acheter d'autres. Donc, c'est vraiment difficile.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les prix puissent être stables?
Bah, que le ministère de l'économie puisse intervenir. Hein. En tout cas, que le ministère de l'économie puisse intervenir, faire un suivi, quoi, des prix sur le marché, dans les magasins. Les gros titres, par exemple,
Merci beaucoup, madame. On sent même qu'autour de vous, il y a du bruit de fond. Vous êtes au marché.
Oui, je suis au marché. Je suis au marché, donc c'est un peu bizarre.
En tout cas, merci beaucoup, madame, pour votre intervention sur les ondes de Radio Capi.
De lundi à vendredi, de 8h15 de Kinshasa, Radio Okapi vous propose une émission économique. Pour connaître les tendances du marché, les évolutions du cours de devises, les entreprises qui s'installent et leur impact sur la vie sociale, suivez Éco d'économie. Éco d'économie, c'est l'ensemble des actes à portée économique du pays ainsi que l'entreprise sur la vie quotidienne. Éco d'économie, lundi à vendredi, 18h15 sur le Kinshasa.
Et nous poursuivons cette émission par nos auditeurs. Nous avons choisi pour vous un sujet économique avec la hausse des prix des différents produits sur le marché. Nous avons au bout du fil notre premier invité. Il s'agit de M. Lems Camoignan. Il est expert en économie. M. Lems, vous avez encore suivi nos auditeurs. Mais entre-temps, il faudrait signaler qu'il y a aussi M. Michel Sommoué qui est aussi au bout du fil. Il va intervenir tout juste après M. Lems Camoignan. Parce que le Camoignan, vous avez suivi nos auditeurs, ils ont encore fait plusieurs propositions. Par exemple, en ce qui concerne les prêts, réduire les prêts de douane, là, c'est peut-être des exonérations sur certaines marchandises. Et au regard du budget de l'État qui a provisionné à près de 50% des taxes impôts et redevances, est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un certain déséquilibre?
Oui, tout à fait. Je pense que peut-être moi j'aimerais évoquer l'incidence de la fiscalité sur les niveaux des prix. Hein. Parce que ces derniers temps, vous avez constaté, depuis l'entrée en fonction du nouveau ministre des Finances, il a signé avec l'ensemble des régies financières ce qu'on a appelé le pacte de dédoublement des recettes. Cela signifie que l'OFIDA, la DGI, la DGRAD s'engagent à multiplier par deux leurs recettes. Alors, on estime que cette multiplication, elle se fait plutôt par l'élargissement de la base imposable ou la lutte contre la fraude, de façon à canaliser tout ce qui échappait vers les trésors publics. Mais si cela se fait par la création de taxes supplémentaires, parce qu'on a vu beaucoup d'opérateurs économiques se plaindre de la multiplicité des taxes, si vous créez autant de taxes, sachez que les opérateurs économiques vont répercuter ces taxes au niveau des prix. Et ça sera le consommateur final qui va en payer les frais. Donc ça, ça peut aussi être un mécanisme que nous devons contrôler, que la fiscalité intérieure, elle est équilibrée, elle est optimale, de manière qu'elle ne soit pas responsable de la hausse des prix sur le marché des biens et services. Et ça, c'est aussi le rôle de l'État de veiller sur les niveaux de la fiscalité, de mettre fin à la plupart des tracasseries, parce que surtout ceux qui sont dans les circuits d'importation, vous arrivez à la frontière, vous allez trouver plusieurs services. Même là, on aura des taxes qu'elle perçoit sur les importations. On se demande, quand on importe des poulets ou bien on importe du jus, comment on peut payer la taxe à une agence nationale de renseignement. Je crois qu'il y a autant de choses qui doivent être vérifiées pour qu'on évite des taxes inutiles qui alourdissent pour rien la structure des prix et font croître les prix sur le marché. Et ça, c'est là à quoi un peu la misère de la population. Ça, c'est un effet aussi important qui devra être surveillé.
Mm-hmm.
Ce que je peux aussi ajouter, c'est le fait que vous connaissez, nous avons un pays qui est assez vaste. Il y a les problèmes de disparité régionale, il y a les problèmes de moyens de transport. J'ai suivi l'auditeur, là, l'opérateur économique de Tanangai, qui s'est dit, lorsqu'il a imposé une marchandise, il doit attendre 7 à 8 mois pour réceptionner. Entre-temps, il y a tous ces frais, il y a tous ces manques à gagner qu'il est en train de subir. Et ça aussi, c'est le rôle de l'État, par exemple, de faire en sorte que les voies de communication soient non seulement les plus fluides possibles, mais qu'ils soient aussi les moins coûteux possibles. Cela va permettre qu'il n'y ait pas d'écart de prix assez important, qu'il n'y ait pas de retard de circulation entre les marchandises d'un point à un autre, aussi bien entre les différentes provinces et villes du pays que vis-à-vis des marchés internationaux vers lesquels nous nous adressons. Donc, ça, c'est aussi le rôle de l'État. Nous pouvons voir les entreprises comme la SNCC, la réfection des routes, comme ça se fait déjà, ça peut permettre que les coûts de transport soient ça peut aussi affecter les prix
Monsieur Montagnier, vous avez aussi suivi plutôt comment, vous avez suivi dernièrement, il y a le ministre de l'économie qui a essayé de pouvoir fixer les prix, mais curieusement, ça n'a pas été respecté, mais quand même, il a tenté. Mais pourquoi ce genre d'action n'arrive pas à se réaliser sur le terrain?
Non, là, ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire, nous sommes dans une économie de marché. Les prix est généralement considéré comme une donnée du marché. Les contrôles des prix qui se fait au ministère de l'économie, le plus souvent, on l'appelle comme étant les contrôles des prix à posteriori. C'est-à-dire, le ministère de l'économie ne peut pas se faire pour dire, pour faire bien, voici les prix qu'il faut pratiquer. Mais il peut contrôler par la suite, par après, en fonction de la structure des éléments qui interviennent dans la fixation du prix. Donc, lui ne peut pas fixer le prix. Bien entendu, il y a certains produits qu'on considère comme étant des produits réglementés, tels que les carburants. Ça, c'est des produits pour lesquels les niveaux de prix sont fixés. Mais j'aimerais aussi profiter de ça pour essayer d'expliquer un autre facteur que nous constatons dans les provinces. Vous connaissez avec les gouvernements provinciaux, il y a certains gouverneurs de province ou certains gouvernements provinciaux qui cherchent aussi à créer des taxes supplémentaires au niveau de leur province. Alors, ces taxes supplémentaires qui sont créées par les édits que prennent ces gouverneurs, c'est aussi des facteurs qui, lorsqu'ils ne sont pas harmonisés avec la politique générale des prix au niveau du pays, peuvent aussi entraîner la hausse des prix et les disparités entre les différentes provinces du pays. Donc ça, c'est aussi un facteur important qui devrait être surveillé pour éviter que les gouvernements provinciaux qui cherchent à maximiser les recettes puissent créer des taxes supplémentaires qui seront encore à charge de la population.
Nous vous remercions pour nous avoir accordé votre temps au cours de cette émission. Parole aux auditeurs. Encore une fois, merci, M. Lemke-Kamoyen.
Je vous remercie.
Parole aux auditeurs.
Et nous poursuivons cette émission. Je rappelle que nous avons notre second invité. Il s'agit de M. Michel Somo. Il est président de la Fédération nationale des petites entreprises du Congo. Avec lui, nous allons échanger pour le reste de l'émission. Bonjour, M. Michel Somo.
Bonjour madame.
Le temps que nous puissions écouter Richard Mokosh, qui est responsable clientèle de l'Ordaman, et puis nous allons revenir à vous, M. Michel Sommet. Bonjour, M. Richard Mokosh.
Bonjour, madame.
Monsieur Armco, je vous êtes responsable clientèle à Langaman. C'est une entreprise quand même qui permet à certains opérateurs économiques de pouvoir, si on peut dire, fournir les marchandises ici à Kinshasa. Monsieur Richard Moukos, vous avez aussi constaté la hausse des prix sur le marché. À votre avis, quelles en sont les causes?
Bon, la première cause, donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein, donc, si la demande est plus forte que l'offre, donc, le prix ne peut qu'augmenter. Et là, je peux vous donner l'exemple donc, de l'inflation chinoise. Généralement, nous avons deux origines donc, pour l'approvisionnement du Congo. Le poisson provient de la Mauritanie, ce qu'on appelle communément le Mbongo. Et le Kyodi provient donc, de la Namibie. À ce jour, donc, la Mauritanie n'est pas en mesure de fournir donc, le poisson au Congo. Le poisson mauritanien est actuellement élevé à 10%. Il faut 10% donc pour rapport à la production normale. Donc, c'est ça, donc, on met ça localement. Et donc, la Namibie qui nous reste doit nous servir nous, le Ghana et la Gambie. Donc, et nous sommes tous trois pays branchés sur ce marché-là. Et voilà, il y a
Donc voilà pourquoi il y a cette hausse de prix, question, comme vous l'avez si bien expliqué, d'offres et de demandes. Mais vous êtes quand même responsable clientèle Orgamal. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour stabiliser quand même les prix? Parce qu'il y a eu des opérateurs qui ont dit que c'est vrai que le coût de transport a une influence vraiment sur la fixation des prix sur le marché.
Moi, mon sens de tous ces facteurs-là, donc, je dirais que donc, la consommation vient en poisson kyodi pour la ville de Kinshasa et l'Irlande, donc les Bas-Congo et les régions régionales de la ville de Kinshasa, est estimée à plus ou moins 14 000 tonnes. Pour que les gens ne puissent pas s'en sortir, il faut qu'on importe. Donc, si je mets 12 000 tonnes de poissons, à ce jour, donc, nous sommes aux alentours de 7 000 tonnes. Il y a un déficit déjà de 5 000 tonnes de poissons qui sont sur la grille. Donc, le seul fournisseur de ces poissons, c'est la Namibie.
Donc, au regard de ce déficit-là, il y a vraiment une carence sur le marché. Nous vous disons merci, Monsieur Richard Moukos. Donc, il faudrait plus demander aux autres opérateurs économiques de pouvoir faire un effort, si possible. Et à votre avis, avant bien sûr de vous quitter, à votre avis, est-ce que l'État peut faire quelque chose par rapport à ce manque?
C'est plus grand temps qu'on apprenne à produire localement, c'est à dépenser beaucoup plus.
Merci beaucoup, M. Richard Moukos. Pour vous, il faudrait qu'on puisse encourager et surtout renforcer la production interne et non nécessairement dépendre de l'extérieur. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons prendre Albert de Kisangani avant de revenir à M. Michel Stomé. Bonjour, Albert.
Bonjour, M. Chantal.
Oui, Albert, quelles sont vos propositions pour la stabilité des prix?
Merci beaucoup. Ici, à Kisangani, j'ai deux ou cinq parenthèses, M. Chantal. Kisangani, à l'époque, ça fait d'abord un carrefour. Hein, c'est la seule ville au pays là où il y a 10 entrées et 10 sorties. Vous prenez la route Ituri, la route Lubutu, la route Buta, la route Ubundu, la route Opala, la route Yangambi, la voie Kudia Onatrap, plus deux aéroports internationaux, plus la voie ferrée. Donc, à partir de Kisangani, à l'époque, tout était moins cher à cause des prix de tout ce trafic. Alors, pour que les prix puissent baisser, il faut que l'État, s'il vous plaît, fasse tout pour réhabiliter d'abord les infrastructures routières et les routes de cet aéroport. Ça, c'est un. À ce moment-là, ça va permettre aux paysans d'évacuer tous les produits. Quand il y aura un abondance sur le marché, naturellement, on va maintenant exporter, et en exportant, on a les devises, la monnaie maintenant aura sa valeur, et en plus, il sera, au niveau de la banque centrale, il y aura ce qui est. Donc, nous ne produisons rien. Imaginez-vous,
le paddy quitte à Opala par vélo. En 2700 années, il faut y venir avec des pieds de charge à côté de l'autre. Donc, c'est vraiment difficile. L'État doit faire un effort. Donc, on doit faire tout le reste pour qu'il y ait un seul chantier qui peut réhabiliter les systèmes de communication. Imaginez-vous, il n'y a pas longtemps. Le coût de billets d'aviation, c'était, il n'y a pas une semaine, c'était à 200 dollars. Au moins, je vous parle aujourd'hui, c'est déjà à 280 dollars. Comment expliquer ce phénomène? Où est l'État congolais, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on doit faire souffrir les gens comme ça? Nous devons tout faire en sol, réhabiliter les routes, ça va tout résoudre. Seul, ça viendra tout seul. Bon, il y en a des routes de toute la vie, ça vient tout seul. Il y a un nouveau, à 65, il y a comme vous sortez le pouvoir. Il avait trouvé 48 millions de dollars faits dans la banque centrale. Aujourd'hui, il y a zéro. Pas que nous, les gens, il avait à la banque, il avait des couvertures.
S'il vous plaît, Albert.
Il y a des gens qui ont dit quoi, il y a des gens qui aujourd'hui, il n'y a rien.
S'il vous plaît, Albert. S'il vous plaît, Albert, dire qu'aujourd'hui, à la banque centrale, il n'y a rien, c'est un peu trop dire. Il y a quand même quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas assez suffisant pour couvrir tous les besoins de la RDC. Merci, Albert de Kisangani, pour votre intervention. Il y a l'ingénieur Philippe Nzita qui nous écrit ceci. Voici mes propositions, que l'État accorde des crédits aux opérateurs économiques, que l'État diminue les taxes et les nombres de services à la douane, que l'État encourage l'agriculture. Marcel Kabongo aussi qui nous écrit. La hausse de prix est liée à la multiplication méchante des taxes qui ne rapporte rien aux Congolais et dont les dirigeants s'enorgueillissent. Un gouvernement qui n'a aucune structure de transport mais qui se plaît à multiplier les taxes même pour les vélos. Donc voilà aussi l'avis de Marcel Kabongo. Nous allons tous deux accorder la parole plutôt à M. Michel Sommet qui est président de la Fédération nationale des petites entreprises du Congo. Monsieur Michel Sommet, vous avez suivi nos auditeurs. Aujourd'hui, vous dirigez la Fédération nationale des petites entreprises du Congo. C'est à travers, en fait, aussi des petites entreprises du Congo que le développement de l'économie peut s'améliorer en RDC. Au regard de cette hausse de prix, est-ce que ce climat-là est propice pour pouvoir installer des petites et moyennes entreprises au Congo?
Madame Souffret, je pense d'abord à l'agriculture rectificative. Je ne suis pas le président national de la Fédération des petites entreprises. Je suis administrateur délégué de la Fédération nationale des petites et moyennes entreprises congolaises.
Mmh.
Alors, pour revenir à votre question, vous me demandez si, dans un climat d'augmentation des prix, pour qu'enregistrer cela est propice à l'activité des PME. Je reconnais tout de suite que ceux qui augmentent les prix sont des opérateurs économiques et quand les prix augmentent, cela rapporte un peu plus de recettes. Donc en fait, dans un environnement où les prix ont tendance à augmenter, du fait des opérateurs économiques qui ajustent leur prix au niveau souhaité de leur profit, ça n'a pas trop d'impact par rapport aux opérateurs économiques. Enfin, je veux faire quelque chose, je veux faire remarquer deux ou trois choses. La première chose, c'est que, primo, lorsque vous allez dans des pays comme les États-Unis, par exemple, concret, j'ai eu un long séjour aux États-Unis en 2001, et j'ai acheté une bouteille d'eau minérale de 1,5 litre, je pense, à 99 cents. 9 ans après, en 2010, je suis repassé dans le même pays, dans la même ville, dans le même état, dans le même supermarché. Le prix de la bouteille d'eau n'a pas augmenté, il est resté le même, 80%, c'est 9 ans plus tard. Pourtant, on parle quand même, aux États-Unis aussi, du taux d'inflation, d'une certaine augmentation des prix.
Mm-hmm.
Ça, c'est une grande observation importante. Quand on parle d'augmentation des prix, quand on parle de l'inflation dans un pays, c'est quelque chose qui ne peut pas si facilement s'observer parce que vous avez l'impression que les prix sont souvent les mêmes. Ce qui est anormal, justement, c'est que dans un pays comme le nôtre, essentiellement le nôtre, les prix varient de façon trop spectaculaire. Et c'est trop remarquable et on en parle si facilement. Il faut considérer la cause première qui est la suivante. Parce qu'en fait, il y a des causes immédiates, il y a des causes médiates. Mais de façon immédiate, si vous permettez, il faut reconnaître que dans un pays comme le nôtre, où l'offre de monnaie est insignifiante, insuffisante, parce qu'en réalité, l'offre de monnaie au Congo se limite à quelque chose comme près de $8 par habitant pour toute l'année. Dans un tel pays, l'augmentation des prix devient le seul moyen pour un opérateur économique de maximiser, d'augmenter ses recettes. Quand on veut accroître le stock de monnaie, quand on veut accroître le stock de capital, quand on veut maximiser ses recettes d'une façon ou d'une autre, l'augmentation des prix devient la pratique la mieux indiquée, la plus sûre de cet accroissement. Voilà pourquoi chez nous, c'est trop spectaculaire. Alors, est-ce que cela est propice aux affaires? Je peux revenir à cette question que vous m'avez posée au départ. Cela est-il propice aux affaires? Je dis non, parce que ça signifie l'instabilité du système du climat d'affaires. Il est instable. L'opérateur économique qui vend ce matin ne sait pas si il a bien vendu, parce que si à midi le prix a changé, donc il a déjà vendu à un autre prix, donc il voudra aller renouveler le stock de ses marchandises, il a subi un coût assez sérieux. Alors, ça fait des effets de contagion. Nous avons ainsi déstabilisé un système de l'économie.
Et comment faire d'une façon si simple pour remédier à ce genre de situation, pour que les prix deviennent stables et que les opérateurs puissent continuer à investir, ce qui permettra une certaine production?
Mais madame, c'est une simple question de ce que nous appelons en termes si faciles. C'est une question de politique monétaire. Point. Pourquoi? Parce que l'augmentation des prix signifie quoi? L'augmentation des prix signifie la diminution de la valeur intérieure ou intrinsèque de la monnaie. C'est ce que ça veut dire. L'augmentation des prix signifie que le billet de banque n'a plus la même valeur intrinsèque. Il a baissé, le billet de banque a baissé de valeur intrinsèque. La politique monétaire a trois objets fondamentaux dans sa gestion quotidienne. Premier objet, c'est la stabilité de la valeur de la monnaie, de la valeur intrinsèque de la monnaie. Deuxième objet, c'est la convertibilité permanente de cette monnaie. Troisième objet, c'est la liquidité de cette monnaie.
Vraiment, nous excusons vraiment, M. Michel Soumé. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions, vous auditeurs et ceux qui sont intervenus au cours de cette émission. Demain, nous allons nous rencontrer et nous allons parler de la violence qu'on constate de temps en temps lors des rencontres sportives. À votre avis, que faut-il faire pour mettre fin à cette violence? Vous pouvez réagir dès à présent, nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. À demain.